Bien, vous allez écouter France Culture, il est 18h et c'est l'heure du journal. Un journal présenté ce soir par Stanislas. J'allais dire Stanislas Kiffer, Stanislas Bazac, puisque j'avais sur mon papier le nom de Stanislas, d'Aurélie Kiffer. Stanislas Bazac, c'est à vous.
Merci, bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le patronat rassuré après les annonces de Gabriel Attal, les organisations patronales saluent la volonté du Premier ministre de ne pas taxer davantage les entreprises. Gabriel Attal qui a tenté hier soir de sortir de l'ombre d'Emmanuel Macron pour imprimer sa marque. Le décryptage de Rosalie Lafargue dans un instant. Un mineur de 17 ans en garde à vue après les menaces d'attentat contre des établissements scolaires. Des menaces via les espaces numériques de travail que les autorités prennent très au sérieux. Le dossier de ce journal sera consacré à la liberté académique des chercheurs qui seraient menacés selon certains. L'État accusé d'entraver des travaux universitaires. L'enquête de Cécile de Kervas-Doué dans ce journal. Haïti est plongé dans une situation cataclysmique, alerte l'ONU. Les bandes armées font la loi dans un pays toujours privé de gouvernement. Gabriel Attal s'est attiré les foudres des syndicats et de l'opposition en proposant hier soir une réforme globale de l'assurance chômage. Pour le Premier ministre, la réduction de la durée d'indemnisation permettrait de faciliter le retour à l'emploi. Les oppositions et les syndicats sont à l'unisson pour accuser le gouvernement de s'en prendre aux chômeurs pour redresser les comptes publics. Le patronat, lui, est plus prudent. Il estime que c'est aux partenaires sociaux de négocier les contours de la nouvelle assurance chômage. En revanche, les organisations patronales saluent l'engagement de Gabriel Attal de ne pas augmenter les impôts sur les entreprises, Wafia Kinich.
Des organisations patronales qui ne cachent pas leur soulagement après les mots de Gabriel Attal hier soir. Leur crainte était que de nouvelles charges n'enraient la machine et ne pèsent encore plus sur les épaules des entreprises françaises qui, selon Patrick Martin, le patron du MEDEF, sont, je cite, « parmi les plus taxés du monde ». Cette hausse des impôts sur les entreprises, c'est notre ligne rouge, dit-il, et nous serons vigilants à ce qu'elle ne soit pas franchie. Le MEDEF rejoint le gouvernement sur l'idée que la meilleure manière d'assurer le plein emploi, c'est en favorisant l'activité économique. Il y a peu, il avait exprimé ses craintes sur un autre sujet, celui des aides aux entreprises. Il redoutait une tentation de Bercy de remettre en question les dispositifs de soutien. La CPME, deuxième syndicat patronal, s'est aussi réjouie pour les mêmes raisons par la voix de son dirigeant François Asselin. Ce dernier a insisté sur la suppression promise par Bruno Le Maire en août dernier de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Réduite de moitié, le ministre de l'Économie a promis qu'elle aurait totalement disparu en 2027. Enfin, Marc Sanchez, pour le syndicat des indépendants et des TPE, a exprimé le soulagement des petits patrons dans un communiqué. Il met aussi en garde le gouvernement car selon lui, les entrepreneurs sont loin d'être en capacité de recruter en masse dans un contexte économique dégradé sans changement drastique du poids des charges qui pèsent sur les salaires.
Wafia Kinich, merci. Hier soir sur TF1, Gabriel Attal a voulu imprimer sa patte sur les grands projets du gouvernement. Le Premier ministre a souvent parlé à la première personne. Problème d'autorité, excès de confiance. Gabriel Attal ressentirait-il le besoin d'affirmer que c'est lui le chef? En tout cas, une partie du vocabulaire employé suscite quelques interrogations. Rosalie Lafargue.
Une demi-heure d'entretien ponctuée de plusieurs petites piqûres de rappel de Gabriel Attal.
Je suis allé avec ma ministre Catherine Vautrin, mon ministre de l'économie et des finances. J'ai demandé à ma ministre du travail. Moi, je suis très fier de mon gouvernement. Vous avez cité plusieurs de mes ministres.
Comme s'il avait besoin quelque part de démontrer qu'il est le premier d'entre eux, souligne Arnaud Mercier, spécialiste de la communication politique et professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas.
Il peut y avoir la tentation pour les uns et les autres de considérer qu'à partir du moment où ils sont des ministres de poids, par leur assise, par leur expérience, par leur ancienneté, par leur âge, ils n'ont pas de raison d'accepter de façon excessive, on va dire, l'autorité du Premier ministre et considérer qu'ils ont une petite marge d'autonomie. C'est une évidence. Face à tout ça, il tient à rappeler qu'il y a bien une subordination.
Mais s'il est le chef des ministres, Gabriel Attal n'oublie pas qu'il a lui aussi un patron au-dessus.
Vous savez que chef de l'État, on applique le programme sur lequel il a été élu devant les Français.
Sans que cela n'empêche le numéro 1 du gouvernement d'imposer parfois ses propres idées.
Ce qu'on a abordé tout à l'heure sur la semaine en 4 jours, oui, c'est c'est moi.
Après le en même temps macronien, le en même temps attalien, analyse le professeur Arnaud Mercier.
Il fait allégeance quasiment à chaque intervention publique, d'une façon ou d'une autre, à Emmanuel Macron, c'est lui qui fixe le cap, j'applique les idées du président. Et en même temps, il essaye de trouver sa petite musique personnelle, alors dans son style, dans quelques idées qu'il place, pour essayer de montrer qu'il est là, et il existe et il a une identité.
Une identité que certains dans la majorité imaginent de plus en plus s'affirmer dans la perspective de la prochaine présidentielle, quand d'autres la voient déjà s'essouffler moins de 3 mois après l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon.
Rosalie Lafarge, Gabriel Attal qui a aussi fait preuve de fermeté dans l'affaire du proviseur du lycée Ravel à Paris. Proviseur qui a quitté ses fonctions après avoir reçu des menaces de mort. Le Premier ministre a annoncé une plainte de l'État pour dénoncer calomnieuse contre la lycéenne voilée qui avait eu une altercation avec ce proviseur. Ces derniers jours, plusieurs établissements scolaires partout en France ont reçu des menaces d'attentats via les ENT, les espaces numériques de travail. Un mineur de 17 ans a d'ailleurs été interpellé et placé en garde à vue ce matin à Malakoff près de Paris dans le cadre de l'enquête. Florence Turm, les autorités prennent ces menaces très au sérieux.
Ce sont des enquêteurs de l'Office de lutte anti-cybercriminalité de la police judiciaire qui ont interpellé le mineur, un adolescent âgé de 17 ans, soupçonné d'être à l'origine de plusieurs messages de menaces sur les espaces numériques de travail. Il est trop tôt pour en dire plus à ce stade. Il doit d'abord être interrogé dans le cadre de sa garde à vue avant son éventuelle présentation au parquet ou à un juge d'instruction. Les policiers ont agi dans le cadre de l'une des 3 enquêtes en cours, la première ouverte dans la foulée de la vague de menaces en ligne dirigée contre des lycées franciliens jeudi dernier. Ces menaces d'attentats s'accompagnaient de liens vers des vidéos de décapitation que certains élèves ont pu visionner. Hier, 2 autres enquêtes sont venues s'ajouter à la première, après de nouveaux messages du même type, également transmis via les ENT, mais qui visaient cette fois une 50aine de collèges parisiens. La 3e de ces enquêtes, elle a pour vocation de centraliser l'ensemble des investigations qui pourraient être lancées dans d'autres régions de France. Ces enquêtes portent sur toute une série d'infractions, non seulement menaces de mort, mais aussi apologie du terrorisme, usurpation d'identité, divulgation de fausses informations, également atteinte à un système de traitement automatisé de données mis en œuvre par l'État. C'est le fameux système des espaces numériques de travail dans lequel le ou les auteurs se sont introduits en y apportant des modifications frauduleuses. Il s'agit d'un délit passible à la même hauteur que l'apologie du terrorisme de 7 ans d'emprisonnement.
Florence Turm, la liberté académique des chercheurs est-elle menacée? C'est le thème de notre dossier ce soir, alors que de nombreuses voix s'élèvent sur les campus pour dénoncer l'intervention supposé de l'État dans les universités. Cécile de Kervas-Doué, bonsoir.
Bonsoir.
Des chercheurs se mobilisent pour défendre leur liberté de travailler.
Oui, à l'automne dernier, lors de sa libération des prisons d'Iran, l'anthropologue franco-iranienne Fariba Abdelka avait mis en garde les chercheurs français contre les atteintes à la liberté académique en France.
En France même, nous avons des collègues qui travaillent sur le maintien de l'ordre, sur des mouvements sociaux comme celui des Gilets jaunes ou sur les mobilisations environnementalistes qui ont été inquiétés.
Le chercheur Jean-François Bayard, professeur à l'IHEID, l'Institut des hautes études internationales de Genève, faisait partie du comité de soutien de la chercheure au nom de la liberté académique qui en France, je vous le rappelle, est un principe constitutionnel depuis 1984 et qui interdit juridiquement l'intervention du pouvoir dans la gouvernance d'une université. Ce qui veut dire que l'intervention de Gabriel Attal le 13 mars dernier à Sciences Po aurait violé cette liberté. Et ce n'est pas un exemple isolé, s'inquiète encore Jean-François Bayard qui dénonce un maccartisme intellectuel.
Aujourd'hui, on est accusé, par exemple, d'être islamo-gauchiste ou d'être wokiste. Et vous avez une campagne politique qui a été lancée par Emmanuel Macron en 2020, mais qui a été également relayée par des députés, les Républicains, en particulier M. Aubert, qui a établi une liste nominative de chercheurs soupçonnés d'être des islamo-gauchistes, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir en termes d'agression verbale, voire physique, de ces chercheurs par des militants identitaristes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que certains universitaires ont relayé eux-mêmes les accusations d'islamo-gauchisme.
D'où la création en mai 2023 d'un observatoire des atteintes à la liberté académique qui vise à recenser et documenter ces attaques qui, avec les réseaux sociaux, deviennent protéiformes, explique Delphine Dulon. Elle est professeure de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et c'est la présidente de ce nouvel observatoire.
Les discours scientifiques, dès lors qu'ils sortent en fait des arènes scientifiques, ils vont faire l'objet d'usages incontrôlés par nous, des usages sociaux, des usages politiques, des usages militants, souvent en fait qui tendent à simplifier les concepts scientifiques. L'exemple le plus connu, c'est celui de genre, qui est un concept qui est validé par donc des centaines et des centaines de scientifiques du monde entier. Et il y a des travaux qui documentent la circulation en fait de ces campagnes anti-genre. Ça part du Vatican et ensuite ça va être propagé par l'Église catholique, mais aussi les Églises évangéliques. On a de plus en plus des intrusions politiques.
De quoi freiner la recherche, disent les chercheurs sur ces domaines, mais il y a aussi des freins plus feutrés, prévient encore Thibaut Boncourt, professeur de sciences politiques à l'université Jean Moulin, Lyon 3, qui l'année dernière a créé, lui, un groupe de recherche pour documenter à froid les atteintes à la liberté académique.
Il y a toute une série de politiques scientifiques, que ce soit des formes de régulation, de l'éthique ou de l'intégrité, des dispositifs de recherche sur projet, qui génèrent à la fois de la bureaucratie et qui génèrent aussi des contraintes, parce qu'évidemment le cadrage des thématiques sur lesquelles les financements abondent ou au contraire n'abondent pas, pour n'être que peu spectaculaires, n'en sont pas moins des choses qui restreignent ce sur quoi il est possible de travailler ou pas.
Alors toujours en 2023, les responsables de toutes les universités de France ont aussi demandé à l'Institut d'études de sciences politiques d'écrire un rapport qui pourrait proposer finalement une meilleure protection des chercheurs. Stéphanie Balm est la directrice du CERI, le Centre d'études internationales de Sciences Po, et c'est elle qui a la charge de ce rapport.
Il faut s'assurer que le droit ne rende pas facile à quiconque qui voudrait user de diffamation contre un chercheur pour l'empêcher de travailler. Donc la protection des sources est évidemment essentielle. Ensuite, il y a un travail extrêmement important pour interdire les procédures Bayon qui empêchent des académiques, des universitaires de faire leur travail. Notre idée est d'augmenter les sanctions, de travailler à l'absence de présomption de diffamation et d'interdire l'usage de matériaux d'enquête comme source de poursuite pour les diffamations.
Alors pour éviter tout risque de récupération politique, toutes ces propositions ne seront remises qu'après les élections européennes du mois de juin.
Un dossier signé Cécile de Kervas-Douet, merci à vous. L'UFC Que Choisir livre une enquête inquiétante sur les produits alimentaires transformés. Selon l'association de consommateurs, l'origine de ces produits serait opaque dans 69% des cas. L'UFC a analysé 243 aliments transformés présents dans des conserves, des plats préparés, des salades ou des charcuteries. Alors pour en finir avec cette opacité, le gouvernement veut mettre en place un nouvel indicateur baptisé Origine Info. Mesure insuffisante pour l'UFC Que Choisir, car ce label ne serait pas obligatoire. Olivier Andreau est chargé de mission agriculture et alimentation au sein de l'association.
Sur un même rayon, sur des produits tout à fait comparables, eh bien, on a certains fabricants qui sont tout à fait en capacité de donner une origine précise sur la quasi-totalité de leurs ingrédients. C'est le cas, par exemple, pour Marie, qui nous donne 8 ingrédients sur 10, le pays précis de ces ingrédients, de ces plats préparés, là où Fleury Michon, eh bien, ne le fait que pour un ingrédient sur 5. C'est véritablement des choix de transparence ou d'opacité selon telle ou telle marque, et qui pour nous révèle derrière finalement des choix d'approvisionnement. Lorsque l'industrie nous dit, ben nous on veut pas que cet affichage soit obligatoire et on veut le faire uniquement de manière optionnelle, ben là nous on n'est pas d'accord, tout simplement parce que si cet affichage, ce visuel reste volontaire, eh bien ça ne changera rien, tout simplement parce que les fabricants vertueux qui indiquent déjà l'origine de leurs ingrédients principaux, eh bien effectivement, eux, ils pourront se saisir de cet affichage, mais les fabricants qui actuellement sont plutôt du côté de l'opacité, eh bien il n'y aura aucune pression pour les inciter à aller vers plus de transparence.
Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir, il répondait à Merci Anésique. Haïti est plongé dans une situation cataclysmique, alerte l'ONU, livré aux bandes armées, privé d'un pouvoir politique digne de ce nom. Le pays est en train de sombrer dans le chaos. La violence a déjà fait plus de 1500 morts depuis le début de l'année, environ 4500 l'an dernier. Jérémy Lanche nous appelle de Genève.
La corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance conjuguées aux actions des bandes armées ont plongé Haïti au bord de l'effondrement, dit le haut-commissaire aux droits de l'homme Volker Turk. Malgré l'embargo sur les armes, celles-ci continuent d'affluer vers l'île. Résultat, les gangs disposent d'une puissance de feu supérieure à la police, complètement débordée, et les exactions se multiplient.
Les gangs ont continué à utiliser la violence sexuelle pour brutaliser, punir et contrôler la population. Certaines femmes sont forcées d'avoir des relations sexuelles avec des membres de gang. Le viol d'otages kidnappés continue d'être utilisé pour contraindre les familles à payer des rançons. Les enfants continuent d'être recrutés et maltraités par les gangs. Toutes ces pratiques sont scandaleuses et doivent cesser immédiatement.
Face à l'insécurité, des groupes d'autodéfense se sont constitués pour se faire justice eux-mêmes. Une loi du talion qui fait encore plus de victimes. Des centaines de personnes ont ainsi été lynchées depuis l'an passé. Cette insécurité chronique a poussé plus de 33 000 personnes à fuir la capitale, Port-au-Prince, et empêché le Programme alimentaire mondial de livrer de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin. La moitié de la population d'Haïti est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Restaurer la sécurité est nécessaire, mais pas suffisant, dit l'ONU. L'état de droit doit rapidement revenir à Haïti, toujours en attente d'un gouvernement de transition depuis la démission du Premier ministre contesté Ariel Henry le 11 mars.
Jérémy Lange depuis le siège de l'ONU à Genève. Il était un petit génie des crypto-monnaies. Il est aujourd'hui en prison aux États-Unis. Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme FTX, a été condamné cet après-midi à 25 ans de détention. Un tribunal de New York l'avait reconnu coupable en novembre de tous les chefs d'accusation, fraude, association de malfaiteurs ou blanchiment d'argent. Sam Bankman-Fried était devenu multimilliardaire alors qu'il n'avait pas 30 ans. Loïc Loury.
Sam Bankman-Fried était-il le cerveau criminel de l'une des plus vastes fraudes de l'histoire ou un jeune geek qui se serait complètement laissé dépasser? En novembre, la justice avait retenu la première hypothèse et reconnu SBF coupable des 7 chefs d'accusation qui pesaient sur lui. À ce titre, le petit génie des cryptos risquait jusqu'à 110 ans de prison, ce sera finalement 25, loin du siècle et demi de réclusion auquel avait été condamné Bernard Madoff, mort depuis derrière les barreaux. Les procureurs, eux, réclamaient 40 à 50 ans de prison contre Bankman-Fried, mais la peine prononcée aujourd'hui n'en reste pas moins exemplaire pour un criminel en col blanc, malgré son look d'adolescent, short cargo et t-shirt, accusé d'avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de sa plateforme FTX pour des opérations financières hasardeuses, des dons politiques ou pour alimenter son train de vie aux Bahamas. « Je suis désolé », disait-il ce matin, face à la cour, mais trop tard, il en est reparti dans son uniforme de prisonnier. Il y a un risque, affirmait le juge avant de prononcer la sentence, que cet homme soit en mesure de faire quelque chose de très mauvais à l'avenir. Et ce risque, disait-il, n'est pas anodin.
Loïc Loury, correspondant à New York. On termine ce journal avec un hommage au prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. Le psychologue israélo-américain vient de mourir à l'âge de 90 ans. Pionnier de l'économie comportementale, il avait remis en cause l'idée selon laquelle les décideurs économiques étaient forcément des êtres de raison. Daniel Kahneman n'avait jamais étudié l'économie, ce qui ne l'avait pas empêché de décrocher le Nobel de la spécialité en 2002. Marie Viennot.
Né à Tel Aviv, Daniel Kahneman a grandi à Paris et passé son enfance sous le régime de Vichy et l'occupation nazie. Interrogé sur cette période par Guillaume Erner dans Les Matins en octobre 2021, il retient ce souvenir.
J'avais donc 7 ans, il y avait le couvre-feu pour les Juifs, on portait l'étoile jaune, j'ai donc mis mon pull-over à l'envers. Et là, j'ai rencontré un soldat allemand qui avait l'uniforme noir. Et je savais que l'uniforme noir, ce sont les pires, c'est les SS. Il m'a appelé, il m'a pris dans ses bras. Il a sorti son portefeuille, il y avait une image d'un enfant qui me ressemblait probablement. Il m'a donné un peu d'argent. Je suis revenu chez moi tout à fait convaincu que la vie est très compliquée, les gens sont très compliqués.
Diplômé de psychologie à l'université californienne de Berkeley, c'est avec un autre psychologue rencontré lors de ses années passées en Israël que Daniel Kahneman publie en 1979 plusieurs articles montrant que les préjugés mentaux des individus les conduisent à prendre des décisions qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Des économistes s'appuieront dans les années 80 sur ces travaux pour mettre en doute la théorie de l'homo economicus et créer un nouveau champ, l'économie comportementale. Professeur aux États-Unis à l'université de Princeton, Daniel Kahneman s'intéressera aussi par la suite à la psychologie hédoniste et son lien avec le concept économique d'utilité. Dans son dernier ouvrage, Noise, bruit, il décrit comment les biais cognitifs influencent la prise de décision dans la médecine, la justice, la prévision économique ou encore la protection de l'enfance. L'une de ses dernières interventions publiques, ce fut en janvier dernier, avec 8 autres prix Nobel pour demander la libération des otages israéliens.
Marie Viennot, et vous pouvez retrouver sur franceculture.fr l'entretien que Daniel Kahneman avait accordé à Guillaume Erner dans les matins de France Culture, c'était en octobre 2021. Un mot du temps demain, il restera perturbé, le vent soufflera fort sur la moitié sud. Deux départements, la Loire et le Rhône, sont en vigilance orange. Le ciel alternera souvent entre nuages et éclaircies. Demain matin, il fera entre 6 et 14 degrés. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 12 et 25 degrés du nord aux plaines du Roussillon. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.